franceinter.fr.
Les traitements contre l'acné sont à la une de la science aujourd'hui.
Oh, cette tronche que je me tape, on dirait un gazpacho avec des grumeaux.
Mon chéri, as-tu déjà essayé le spoticide?
Le spoticide?
Composé d'OGM, de laine de verre, de pneus, de téflon, d'amiante, d'aluminium et d'enzymes de Fukushima, le spoticide est un produit 100% naturel.
Alors, de vrais traitements de l'acné sévère existent avec des compositions un petit peu moins terrifiantes, mais depuis plusieurs années, ils soulèvent toutefois des inquiétudes en raison de prescriptions abusives ou de certains effets secondaires importants. Certains sont suspectés d'être liés à des risques suicidaires. La Société française de dermatologie, avec l'appui de la Haute Autorité de Santé, a présenté mardi de nouvelles recommandations à destination des professionnels de santé concernant les traitements de l'acné. Pour faire la lumière sur cette remise à plat, nous recevons donc aujourd'hui Laurence Leclerc-Hache, dermatologue et chef de projet pour ces nouvelles recommandations, et puis le médecin attitré de la tête au carré, Dominique Dupagne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Daniel.
Laurence,
bonjour.
Laurence Leclerc-Hache, les dernières recommandations en matière de prescription contre l'acné dataient de 2007. Pourquoi mettre à jour ces recommandations maintenant? Qu'est-ce qui a motivé ce rapport?
Alors, toute recommandation doit être régulièrement mise à jour, la science avançant régulièrement. Et donc, depuis 2007, aucune actualisation n'avait été réalisée. D'un point de vue plus conjoncturel, les alertes, effectivement, en rapport avec l'isotrétinoïne et le retrait sur le marché, puis la remise de Diane en circulation, a conduit le ministère à saisir la HAS et la Société française de dermatologie pour actualiser ces recommandations.
Il y avait eu des découvertes récentes où il s'agissait vraiment de faire le point parce que justement il y avait des inquiétudes chez les patients comme chez les dermatologues qui prescrivaient ces médicaments?
Il y a en permanence en médecine de nouvelles données. Nous avons analysé plus de 130 articles correspondant chacun à des essais nouveaux. Donc il y avait nécessité d'une actualisation.
Dominique Dupagne, si ces recommandations arrivent aujourd'hui, c'est aussi que par le passé des erreurs avaient été commises?
Oui, il y a une double erreur qui est très classique, comme on le voit dans beaucoup d'autres domaines. C'est un coup de volant à gauche, un coup de volant à droite. Pendant un moment, les médecins n'ont pas été très prudents. La pseudo-pilule Diane était donnée au moindre bouton sur la figure aux jeunes filles. On donnait des médicaments sans trop de précautions. Ensuite, il y a eu des alertes sur les pilules de troisième génération qui favorisaient les thromboses et qui n'étaient pas forcément utiles dans l'acné. Il y a eu Diane 35 qui a été interdite. Et donc, le deuxième coup de volant, c'est tout interdire, ce qui est tout aussi idiot. Et là, maintenant, il y a le bon sens qui parle, c'est-à-dire que la science fait le point sur la situation, retour au centre, la réalité c'est ça, voici comment maintenant, actuellement en 2015, il convient de traiter l'acné.
Alors Laurence Leclerc-Hache, rentrons peut-être dans le détail des nouvelles recommandations. L'isotrétinoïde, j'ai du mal, je ne pense pas l'avoir complètement, c'est l'extracutane, c'est plus simple de le dire comme ça. L'extracutane, on le connaît aussi dans le grand public sous ce nom-là. Donc depuis plusieurs années, source d'inquiétude pour des cas suspectés de suicide, comment doit-il être utilisé? Aujourd'hui, ce sont les génériques. Le Roaccutane en lui-même n'existe plus. Ce sont des médicaments génériques qui sont la même molécule.
Oui, l'isotrétinoïne est un médicament extrêmement efficace dans l'acné, pour lequel effectivement des cas de dépression ou de suicide exceptionnels ont été suspectés, en sachant que sur un cas unique, il est toujours difficile de relier la prise du médicament avec la survenue d'un effet secondaire, d'autant plus que dans cette situation, on sait, il a été bien démontré, que les jeunes gens qui présentent une acné ont des difficultés d'image de soi et éventuellement des troubles de l'humeur, plus que dans une population de jeunes gens qui n'a pas d'acné.
Donc déjà un terrain, des prédispositions, malheureusement, parfois passées à l'acte.
Voilà, donc toute la question est si on a quelqu'un qui est déprimé parce qu'il a une acné, on a assez envie de faire en sorte qu'il n'ait pas d'acné. D'un autre côté, bien évidemment, on ne souhaite pas prendre de risques avec des prescriptions abusives ou mal encadrées.
Oui, on comprend tout l'embarras des dermatologues qui se retrouvent avec ce choix crucial. Axel Villard.
Autant poser la question à Dominique, comment faire le choix de prescrire ou non l'isotrétinoïne?
On a vu, c'est un médicament très efficace. C'est le traitement de référence pour les acnés sévères et résistantes. Alors, j'ai déjà dit ici à quel point il n'était pas possible de transformer les corrélations en relations de cause et effet. Oui, il y a eu des suicides avec l'isotrétinoïde, mais en même temps, on sait qu'il y a des enfants, des adolescents qui sont désespérés par l'acné. On n'a aucune preuve de la réalité, hein. On a une suspicion. Mais le principal problème de l'isotrétinoïde, c'est pas ça. C'est, malgré toutes les précautions qui sont prises, il y a encore des jeunes filles qui tombent enceintes en ayant pris ce produit qui est terriblement tératogène. Donc le problème de ce médicament, c'est vraiment arriver à convaincre les jeunes filles qu'on ne doit jamais prendre ce médicament si on pense qu'on peut tomber enceinte, si on pense qu'on n'a pas bien pris sa pilule, s'il y a le moindre risque de tomber enceinte. Et alors, à ce moment-là, c'est le médicament de référence des acnés sévères.
Tératogène, il faut que vous nous rappelez ce que c'est.
C'est-à-dire provoquer des malformations chez le bébé lorsque le médicament a été pris pendant la grossesse.
C'est un des principaux risques, donc, hein, ce risque de malformation. Laurence Lecléache, l'autre médicament tout aussi controversé, c'est Diane 35, utilisé aussi comme contraceptif chez les jeunes filles. Là aussi, vous dites à prescrire, mais avec prudence. Alors là, en plus, sur celui-là, il y a eu des atermoiements, des allers-retours, c'est-à-dire qu'il a été interdit en France, puis autorisé à l'échelle de l'Union européenne. Donc finalement, la France se plie à cette injonction de la communauté européenne.
Oui, la communauté européenne a fait une réévaluation du bénéfice-risque sur cette molécule et a considéré que la conclusion était favorable et que donc on pouvait continuer à utiliser cette molécule. Par conséquent, dans des situations spécifiques où elle est nécessaire, il faut pouvoir la prescrire et il faut la prescrire, en sachant que par ailleurs, si on doit être amené à prescrire une contraception orale chez une jeune femme qui a de l'acné, il faut suivre les recommandations qui président pour le reste des situations, à savoir qu'on va commencer par des molécules qui sont à moindre risque de troubles de trouver d'embolique et prescrire une deuxième génération en première intention. Du norgestimate éventuellement, qui est un petit peu à la limite entre les deux, et seulement si, malgré un traitement bien conduit d'acné, de l'acné, il persiste des soucis, à ce moment-là, on pourra éventuellement envisager d'autres types de molécules, dont la Diane.
Donc c'est aussi le rappel, il existe des traitements plus doux à envisager en première intention, et puis les traitements plus lourds avec certaines contre-indications sont à prendre en deuxième intention. Il y a aussi un point intéressant, qui intéressera, je n'en doute pas, les plus jeunes de nos auditeurs, sur les régimes alimentaires, c'est-à-dire est-ce que le chocolat, la charcuterie, on entend beaucoup de choses sur l'acné, il faudrait se priver de beaucoup de choses pour avoir moins de boutons. Qu'est-ce qu'en dit le rapport ?
Alors, l'étude de la littérature ne retrouve pas d'éléments probants dans les différentes études qui ont été analysées permettant de conclure que certains aliments pourraient favoriser l'acné. Par conséquent, on peut continuer à manger du chocolat.
Et ça aide à garder le moral. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Dupagne ?
Clairement, la littérature dit qu'on n'a pas de preuves qu'un régime marche. Mais on n'a pas non plus de preuves que les régimes ne marchent pas. Ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est que c'est pas un problème alimentaire. On n'a pas de l'acné parce qu'on mange mal. Mais il est vrai que individuellement, certaines personnes peuvent se trouver mieux de manger moins de certains aliments sans qu'on puisse scientifiquement prouver que c'est vrai pour tout le monde. C'est très personnalisé.
Bon, merci à tous les deux, Laurence Lecléache et Dominique Dupagne. J'en profite, Dominique Dupagne, puisque je vous ai sous la main, docteur. Je suis curieux d'avoir votre avis. Selon les experts de 60 millions de consommateurs, les sirops pour la toux vendus sans ordonnance seraient sans intérêt. Le magazine a passé en revue 37 sirops en vente libre dans nos pharmacies et sur le haut, 23 seraient tout simplement sans intérêt thérapeutique et 3 devraient être retirés du marché en raison de leur composition. Votre réaction ?
Moi, le seul sirop que je prescris, c'est une tasse d'eau bouillante, du sucre ou du miel et le quart d'un citron pressé. Il faut prendre ça dans ses mains et boire ça très bruyamment comme ceci.
Quelle démonstration, merci.
Il s'en étrangle
le bougre. Merci à tous les deux. Axel, à demain.
Demain,
on va évacuer Dominique.
On fait sortir tout le monde.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les tests ADN en vente libre sont de retour aux États-Unis. 2 ans après leur retrait forcé par l'agence américaine des médicaments, la commercialisation des kits 23andMe est à nouveau autorisée. Ces nouveaux kits permettront aux clients de savoir, à partir d'un échantillon de salive, s'ils sont porteurs de certaines mutations génétiques transmissibles. En revanche, les kits ne permettent plus d'évaluer les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d'Alzheimer, option qui posait des problèmes éthiques à l'Agence américaine du médicament. Voir dans l'infrarouge grâce à des implants cérébraux, c'est désormais possible chez le rat. Contrairement à certains serpents ou chauves-souris, les rats ne perçoivent normalement que la lumière visible, tout comme nous. Mais les chercheurs de Chicago ont réussi à augmenter le spectre de lumière que les rongeurs peuvent analyser en implantant des petits capteurs infrarouges dans le cortex visuel. Après une période d'adaptation au dispositif, les rats sont capables d'utiliser leur nouveau pouvoir pour explorer le monde qui les entoure. Et pour finir, la plus grande image jamais publiée de la Voie lactée, elle rassemble 46 milliards de pixels et correspond à 5 ans de collecte d'images par les astronomes de l'université de la Ruhr, en Allemagne. Mise en ligne sous la forme d'une magnifique carte interactive du cosmos, elle est à retrouver en lien sur la page Facebook de La Tête au Carré, de quoi plonger littéralement la tête dans les étoiles.